Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc aujourd'hui, nous allons partager un message qui est dans une continuité de choses que je vais dire avec vous. Et je voudrais qu'on parle de l'édification. On va prendre un passage de l'Écriture très connu, je vais juste le citer, hein, vous n'avez même pas besoin de chercher dans votre Bible, c'est Matthieu 16, 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc on a déjà partagé à plusieurs reprises que Jésus est le bon berger. Et comme il est le bon berger, qui nous montre l'exemple, il nous dit qu'il est quelqu'un qui bâtit, quelqu'un qui édifie. Et nous sommes dans un monde où on a vu beaucoup de choses autour de nous. Peut-être vous êtes comme moi, des fois scandalisés, choqués par des choses qui se passent, comme du vandalisme, des actes de destruction, de terrorisme. Et comme je dis des fois, c'est pas pour justifier certaines choses qui se font, mais je comprends mieux quelqu'un qui vole parce qu'il a faim que quelqu'un qui détruit gratuitement et qui où ça ne profite à personne. Mais il y a quelque chose que nous devons réaliser, c'est que le monde dans lequel nous vivons est effectivement un monde qui est en guerre. À la fois Dieu a créé une planète Terre idéale pour que l'être humain puisse y vivre, et en même temps on se rend compte qu'il y a une réalité spirituelle d'une opposition entre deux royaumes que nous avons vu s'exprimer. Il y a l'Église qui est en train d'être construite. L'Église n'existait pas avant Jésus-Christ. C'est lui qui l'a initiée, c'est lui qui a commencé. Et il s'est immédiatement heurté à une forte opposition qu'on nomme ici symboliquement les portes du séjour des morts. Ça veut dire le siège, l'autorité de tout ce qui s'oppose à Dieu. Mais il est dit, la victoire est assurée pour l'Église. Mais en disant ça, il faut quand même réaliser que elle a besoin de se construire et de grandir. Jésus est celui qui construit, qui édifie, il bâtit son Église et il n'est pas le destructeur. Il y a vraiment une opposition, Jean 10, 10, que nous connaissons bien, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, il est dit. Mais moi je suis venu pour apporter la vie. Donc à l'image de Jésus, nous voulons aussi être des gens qui apportons quelque chose dans le monde, qui sommes des gens qui construisons quelque chose, qui transformons. Alors on peut le voir à plusieurs niveaux, on parle des fois de construire sa vie, certains ont besoin de reconstruire leur vie aussi. Et donc on va voir tout cet aspect de l'édification, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'une manière concrète. Et moi je dis, en tant que chrétien, nous avons un défi dans tout ce que nous apportons autour de nous. Je parle à des pasteurs par exemple, le ministère pastoral c'est un ministère d'édification. Les gens que nous sommes tous des conseillers ou des pasteurs pour quelqu'un. Nous avons nos familles, notre cercle d'amis ou de collègues. Nous apportons des choses autour de nous. Et donc, l'essentiel, ça doit être que notre personnalité, notre ministère, ce que nous apportons aux autres, ça soit un ministère d'édification. Et je vous lance donc le défi de démontrer vos œuvres, votre foi par les œuvres, comme Jacques le dit. Montrez votre foi par les œuvres. Soyez des gens qui, vous pouvez agir, entreprendre, construire, aider, soutenir, encourager, tout ça c'est des verbes, des actions qui doivent aller avec un chrétien. Un chrétien doit pouvoir l'identifier, c'est toujours quelqu'un de positif, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui apporte. C'est pas quelqu'un qui vit en repli, caché, qui n'exprime rien. Et donc, à l'inverse, on peut voir qu'il y a toute une catégorie de personnes. Vous êtes toujours mal à l'aise avec elle, elle n'apporte rien, c'est toujours de la passivité, de la critique, de l'inaction, il y a toujours plein de doutes, d'hésitations. Chaque fois que vous voulez apporter un projet, on vous dit les 36 raisons pour lesquelles ça ne pourra jamais se faire, et il y a toujours des freins, et donc vous avez ces deux façons d'agir qui ne collent pas précisément au royaume de Dieu ou du diable. Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut ne pas connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, être chrétien, et pourtant agir d'après certains principes. On voit des gens dans le monde réussir certaines choses parce qu'ils agissent selon les principes de la parole de Dieu. Ils sont, eux, entreprenants, courageux, audacieux pour faire se lancer des défis. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans la famille de Dieu, mais qui se comporte à l'inverse de ce que Dieu voudrait. Ils n'entreprennent rien, ils ne font rien, ils sont passifs, ils attendent que ça se passe. Et nous, nous attendons le retour de Jésus, mais pas comme simplement pourvu qu'on tienne bon jusqu'à la fin, et puis comme ça il vient nous chercher, on part et tout est terminé. Non, notre vision c'est, quand la Bible nous dit hâtez le retour du Seigneur Jésus, c'est faites en sorte que le maximum de personnes puissent entendre la réalité de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Et ainsi, on peut être sûr que tout le monde sera dans l'arche avant que la porte soit fermée. Mais pas, je m'en vais et puis, bon, bah voilà, ceux qui auront eu la chance d'être dedans, tant mieux. Ou de se dire, il y a une heure qui a été préparée par Dieu. Si vous avez de la chance, eh bien, vous serez du bon côté. Et sinon, tant pis pour vous. Ça, ça ne marche pas. Mais nous voulons être des personnes qui, nous choisissons l'action, nous choisissons d'agir. Et le Seigneur dit, il veut bâtir. Et si vous êtes ses disciples, vous allez agir comme lui. Je parlais justement de retour de Jésus, et même quand j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'assister à une fête de Hanouka, célébrée dans une synagogue par les Juifs, il y avait cette annonce du rabbin qu'ils attendent le Messie. Ça m'a quand même impressionné de réaliser qu'ils font cette déclaration, nous attendons le Messie. Et eux, ils attendent peut-être certains textes qui sont pour nous dans l'Ancien Testament, qui est leur Bible, pour nous se sont réalisés déjà. Certains se sont réalisés, mais peuvent aussi se réaliser à plusieurs niveaux. Ce n'est pas parce qu'une chose a déjà eu lieu que ça ne veut plus rien dire pour l'avenir. Comprenez ce que je veux dire? Jésus a été annoncé une première fois, il est venu. Mais certaines annonces du Messie on peut considérer qu'elles sont encore valables pour ce qui est à venir. Prenons ensemble Michée, si vous voulez, le prophète Michée, au chapitre 5, qui est vraiment le passage repris dans Matthieu, que souvent on peut lire aux environs de Noël, et il nous est dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Donc, il est dit, voilà l'annonce d'un Messie, il dominera sur Israël. Mais quand vous lisez la suite, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Vous vous rendez compte, justement, de la révélation qu'a eu le prophète de se dire, ce n'est pas un homme, c'est pas quelque chose de naturel, quelqu'un dont l'origine remonte au temps ancien. Il nous a dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons que toutes ces choses ne sont pas encore réalisées. Le royaume messianique, l'unité entre la réalité de l'Israël de maintenant et de l'Israël de Dieu que nous sommes spirituellement, il nous est dit « c'est lui qui ramènera la paix ». Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. C'est lui qui ramènera la paix. Donc nous savons que Jésus est le prince de la paix. Et en même temps, ici, c'est une réalité physique de la guerre qui opposait sans cesse Israël à l'Assyrien, qui était l'envahisseur, qui était l'ennemi perpétuel, la menace. Et donc il nous est dit autant une chose physique, historique et qu'on peut vérifier sur le terrain, autant quelque chose de spirituel. Et vous voyez bien, il nous est dit, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs. Quelle drôle d'idée. Hein? On ferait lever contre lui 100 000 hommes, une armée immense. On aurait dit, ok, ça peut marcher pour s'opposer à l'Assyrien, mais faire lever contre lui 7 pasteurs, c'est une chose étrange. Et donc c'est ce que je veux dire aussi pour nous. Si on considère que l'Assyrien, c'est l'image de l'oppresseur, de l'envahisseur du peuple de Dieu, et on fait lever contre lui 7 pasteurs, ça veut dire que Dieu suscite alors des hommes et des femmes qui ont un cœur de berger, qui sont prêts à servir et qui vont se lever contre l'opposition que représente l'Assyrien. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Et nous pouvons dire, spirituellement, nous sommes en territoire occupé. La terre donnée par Dieu à Adam est devenue maintenant la possession de Satan, prince de la planète Terre. Mais parce qu'il a pénétré notre territoire, Dieu fait lever des pasteurs pour qu'on puisse s'opposer à Nimrod. Nimrod, c'est ce roi abominable qui a régné sur toute l'histoire de Babel, tout ce qui représente ce qui se dressait contre Dieu, ces religions d'astrologie et de toutes sortes de sorcelleries. Et donc, on peut dire que pour nous aussi maintenant, Jésus veut que des pasteurs se lèvent pour mettre en échec le système de Babel. Eux aussi voulaient construire, eux aussi voulaient édifier. Mais une tour qui allait s'élever jusqu'au ciel, se faire un nom et être comme Dieu. Donc posons-nous la question, premièrement, qu'est-ce que tu construis? Si tu dois observer ta vie personnelle ou ta vie en tant que chrétien, ton engagement dans le royaume de Dieu, est-ce que tu es en train de construire? Pose-toi la question, est-ce que je suis en train de construire? Ou est-ce que je regarde des autres construire? Ou est-ce que je démolis même ce que d'autres construisent? Mais c'est important. J'ai lu un verset qu'on connaît assez bien en général. Dans Actes 9, 31, il nous est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et j'ai pensé que finalement, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. L'Église était en paix et elle s'édifiait. La première condition pour pouvoir construire, c'est d'être en paix. On ne peut rien construire tant qu'on est en guerre. Qu'est-ce qu'on fait du temps de guerre? S'il n'y a pas un développement dans un pays, toutes les ressources sont mobilisées pour la défense. On fait des armements, on fait des défenses, on fait des fortifications, on fait des prisons pour les prisonniers de guerre, on fait beaucoup de choses comme ça. On ne peut pas dire qu'on fait rien. Mais on ne peut pas dire que, après un certain laps de temps, voici toutes les choses merveilleuses qui ont été accomplies en temps de guerre. En général, il reste pas beaucoup de choses pour la suite. Par contre, quand on voit le développement d'une civilisation, d'un pays ou d'une ville, c'est en temps de paix que ces choses se développent. Donc ce qu'on peut voir dans les choses naturelles, dans les choses de l'histoire, on se rend compte que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est la même chose pour l'Église. Et l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 13:10, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, puisqu'il écrivait aux Corinthiens, afin que présent je n'aie pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Paul avait reçu quelque chose de la part de Dieu pour l'édification. Mais pourquoi il dit ça et non pour la destruction? Parce que la réalité tragique de l'histoire de l'Église, qu'on peut constater encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que dans l'Église, il y a toutes sortes de divisions, de problèmes et de gens qui se détruisent. L'apôtre Paul les mettait en garde, il disait mais si vous vous détruisez les uns les autres, mais qu'est-ce que ça va donner? C'est pas comme ça qu'on peut construire le royaume de Dieu. Donc, si tu n'es pas en paix avec toi-même, qu'est-ce que tu vas construire? Si la guerre est en toi, tu la porteras partout où tu iras. Donc, si en tant que chrétien, tu veux conseiller quelqu'un ou aider quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Tu vas lui apporter tout ce qui est en toi, tes doutes, tes tensions, tes problèmes. Et l'autre personne peut même se demander, mais pourquoi tu veux m'aider? Alors regarde dans quel état tu es, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Et de la même façon, ça peut être, en tant que chrétien, des fois il se crée des groupes, des divisions, des clans, des dénominations, de toutes sortes. Donc la première condition pour pouvoir construire, c'est d'être en paix. Nous connaissons, il y a trois catégories de paix, si vous voulez. D'abord la paix avec Dieu, il faut l'avoir fait. Il nous est dit, nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes, dans un premier temps, ennemis de Dieu. Il faut que nous fassions la paix avec Dieu par Jésus. Ça nous fait rentrer dans la famille de Dieu. Et alors, il nous est dit, notre passé est effacé et on a maintenant la paix avec Dieu. Mais quelqu'un peut avoir fait la paix avec Dieu sans avoir la paix de Dieu. C'est dans Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos soucis, vos problèmes et tout ça. Et il nous est dit, et la paix de Dieu qui surpassera toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si le chrétien est tourmenté par toutes sortes de soucis, de problèmes, d'inquiétudes, il est peut-être en paix avec Dieu, mais il ne vit pas la paix de Dieu. Donc, il a un statut, si vous voulez, qui lui permet de dire, je suis enfant de Dieu, je suis en paix avec Dieu. Mais ça ne change rien dans son comportement avec soi-même et avec les autres. Donc, il faut qu'on accède à cet état où on a la paix de Dieu. Ça nous demande de l'effort, ça nous demande de mettre du temps à part, ça nous demande une discipline de régulièrement se décharger sur Dieu, de dire « Seigneur, tu t'en occupes », de dire « ça, je ne veux pas m'en soucier ». Et puis, il y a la troisième partie, c'est celle qui va vers les autres. Une fois qu'on a cette paix de Dieu, c'est la paix avec les autres. Et là, nous ne sommes pas toujours responsables de l'état d'une relation. Parce que la Bible nous dit « autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde ». Mais malgré votre bonne volonté, des fois ça ne se passe pas bien. Si l'autre veut maintenir un état de guerre, vous pouvez faire des efforts, mais se dire « bon, ça n'est pas gagné d'avance ». Mais autant que ça dépende de vous, alors déjà, agissez selon la parole de Dieu. Quand on regarde par rapport à la paix, j'ai pensé à certains jeux de construction que nous pouvons avoir dès les tout petits déjà. Et ils apprennent à entasser des cubes ou les jeux de construction qui s'imbriquent comme des Lego, les Duplo, tout ça. Si vous observez, dans un premier temps, vous avez des tout petits, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font tout de suite, ils prennent toutes les briques et construisent un édifice très élaboré? Non, la première chose qu'ils aiment faire, c'est venir et tout renverser et tout casser. Et donc, ce n'est pas très grave. On va leur faire subir une psychanalyse en se disant, mais qu'est-ce qu'il arrive à cet enfant? Mais c'est un état normal. Par contre, je trouve, ce qui n'est pas normal, c'est un enfant, en grandissant, ne conservera toujours cet état d'esprit de ne jamais rien arriver à faire. Je ne dis pas que tout le monde doit aimer ça. Peut-être quelques-uns veulent faire d'autres choses. Mais si on a un enfant qui grandit et qui aura toujours cette attitude de seulement démonter, seulement détruire, seulement tout raser ce que les autres auront fait, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne se développe pas. Donc, on peut voir qu'il y a là peut-être une forme de violence qui se manifeste, de vouloir casser. Mais donc, ces choses ne se règlent pas en simplement disant « ne casse pas, tu devrais pas, ce n'est pas bien ». Il y a à un moment donné, un enfant sort de l'âge de l'innocence et il arrive dans l'âge où il prend conscience du bien et du mal. Notre rôle, c'est d'aider les autres à réaliser que ce temps de discernement entre le bien et le mal, c'est ce temps où on peut faire des choix, arrive, il n'est pas instantané. Même nous, on y travaille encore à discerner entre le bien et le mal pour nos choix de vie. Mais ça vient, et puis nous devons aider à faire le bon choix. Comme Dieu nous dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. C'est ça que tu dois choisir. Il dit pas choisis ce que tu veux, il dit choisis la vie. Nous aussi, on influence, on dit ça c'est bien, construire c'est bien, détruire c'est mal. Et quoique, il y a quand même une chose qu'on peut détruire, hein, puisque Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a des choses qui doivent être des fois rasées, détruites. Mais ce n'est pas notre sujet. Alors, on a vu que l'apôtre Paul, il avait dit, il a reçu une autorité du Seigneur pour l'édification et non pour la destruction. Par contre, je me pose des questions parce que je trouve que trop de chrétiens veulent être des fois des Moïse et des Jean-Baptiste, dans le sens remettre de l'ordre, dire aux autres tout ce qui ne va pas et tout ce qui doit être changé. On a cette vocation prophétique de montrer du doigt et à l'image de Jacques et de Jean qui avaient dit « Veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et qu'il consume ?» Mais l'important, c'est de réaliser que des fois, on est hors contexte. Il y a des situations précises. Jean-Baptiste a été appelé pour une situation précise. Mais tout le monde dans le corps de Christ ne doit pas être un Jean-Baptiste. Où irions-nous ? Il y a un temps pour arracher. Il devait dénoncer ce qui ne va pas dans le peuple d'Israël. Il devait préparer la venue du Messie. Mais nous ne sommes pas tous des Jean-Baptistes, heureusement. Et surtout pas pour ceux qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime. Donc, ne soyons pas dans une attitude de « je suis là pour remettre les pendules à l'heure, je veux leur dire mes quatre vérités », comme s'il y avait quatre vérités, entre parenthèses, pour nous il n'y a qu'une vérité, Jésus est la vérité. Et moi je les accuse, ces gens-là, d'être des terroristes du corps de Christ, parce que on aime proclamer des menaces en disant « voilà, condamnation, jugement, des choses comme ça », mais je vous rappelle que la menace et la peur sont les armes de l'ennemi. Donc, il ne faut pas s'emparer des armes de l'ennemi pour faire des choses dans notre propre camp. Ce serait vraiment stupide. Le psaume 23, qui nous parle du bon berger, il dit « ta houlette et ton bâton me rassurent ». Le peuple de Dieu doit être rassuré par rapport au berger quand il a son bâton à la main, parce qu'il sait que le bâton n'est pas pour lui. Il est pour le loup, d'accord ? Il est pour protéger le troupeau. Sinon, il dirait pas « ton bâton me rassure, ça me rassure de savoir que tu as un bâton à la main ». Normalement, si des parents sont amenés à corriger leurs enfants et qu'ils se servent pour ça d'un instrument, ça ne doit pas rassurer l'enfant. Il ne doit pas se dire « ah, ça me fait du bien de savoir qu'il y a là un instrument qui est pour ma correction ». Mais là, ça génère normalement une crainte respectueuse et cette chose ne doit être utilisée que à bon escient. Mais ici, il nous est dit clairement que si la houlette et le bâton rassurent, c'est que le bâton est pour l'extérieur, pour l'ennemi. 2 Corinthiens 18 nous dit la chose suivante. Et quand je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurai en avoir honte. Donc il reprend encore une fois cette idée, je suis là pour votre édification et non votre destruction. Et donc, ça me laisse perplexe des gens qui croient qu'ils sont investis dans certains ministères dans le corps de Christ, mais que ça ne construit rien, que ça n'aide personne. On se dit, à quoi servent-ils ? Et sont-ils heureux en faisant ce qu'ils font ? Franchement, quand vous savez que vous avez dit une parole à quelqu'un et que après cette personne lui dit « ah, ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit », là vous êtes heureux. Mais si vous avez dû asséner une vérité à quelqu'un et que vous voyez que ça ne l'aide pas et que ça détruit sa vie, vous devez être plutôt repentant que content de votre état. Donc la première condition c'est la paix et ensuite seulement vous pouvez édifier. Alors, posons-nous cette question. Est-ce que je suis quelqu'un de constructif ? Donc, il faut commencer à se construire soi-même. Parce que comment on peut donner quelque chose qu'on n'a pas ? Comment on peut aider si on a nous-mêmes ? Ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre la perfection et après je commencerai. Parce qu'il y a des gens qui sont en formation pendant toute leur vie, mais des fois on dit un peu de certains, ils sont d'éternels étudiants. Éternel étudiant, si on fait des études vraiment très longues, très prolongées, c'est bien si c'est pour atteindre un certain niveau. Et puis, mais à un moment donné, il faut rentrer dans la vocation qu'on a ou dans le désir qu'on a d'accomplir quelque chose. Sinon, ça sert à rien. Donc, on a vu, premièrement, c'était qu'est-ce que tu construis ? Et pour ça, on a vu qu'il faut que nous soyons une personne en paix et positive. Donc, deuxième question, est-ce que tu es une personne positive ? Est-ce que tu aimerais être en ta compagnie ? Est-ce que admettons, tu gagnes un voyage et tu veux emmener quelqu'un, est-ce que tu t'emmènerais ? Nous connaissons une personne et j'aimais bien son expression, c'était une Américaine, elle disait, en anglais, elle disait toujours, « To know me is to love me ». Si vous me connaissez, alors vous m'aimez. Ça veut dire que elle avait développé cette pensée en elle, qu'elle était quelqu'un. Peut-être vous la voyez pour la première fois, vous dites, oh, c'est une personne peut-être bizarre, parce que vous observez sur l'extérieur. Je dis pas qu'elle est bizarre, mais je dis, ça peut arriver que des gens jugent sur l'extérieur, mais en apprenant à connaître quelqu'un, on peut l'apprécier à sa juste valeur. Et si vous avez cette image de vous, en disant, peut-être certaines choses de moi peuvent déplaire à quelqu'un, mais s'il apprend à me connaître vraiment, s'il commence vraiment à connaître qui je suis et quel est mon cœur, il m'appréciera. Ça veut dire que vous avez déjà fait un grand pas en vous-même. Vous êtes déjà réconcilié avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous vous jugez parfait, supérieur, meilleur. Mais ça veut dire que vous n'êtes plus en guerre à l'intérieur contre vous. Vous acceptez. Avec défauts aussi. Ça ne veut pas dire non plus que vous acceptez vos défauts. Je suis comme ça et puis voilà, il faut me prendre comme je suis. Peut-être vous y travaillez, j'espère. Donc, aimerais-tu être en ta compagnie? Est-ce que tu es tourmenté par quelque chose? Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas qu'ils soient mauvais ou méchants, mais il y a peut-être des tas de choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur. Des tas de choses qui nous assiègent à l'intérieur. On parle de forteresse, de pensée, mais on est peut-être tourmenté par des soucis, des fardeaux, des péchés. Hébreux nous dit aussi le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a des choses dans lesquelles on tombe. Il y a des gens qui sont dans une situation de danger par rapport à une certaine forme de péché. Pour d'autres, c'est pas un problème du tout, mais parce que chacun est différent. Donc, ça peut être aussi des souffrances, des maladies, parce que nous avons hérité de certaines choses qui sont dans ce monde, qui peuvent être des handicaps, des souffrances, des maladies, et qu'on traîne avec nous. Donc, ça se peut qu'il y a des choses, des vraies raisons pour lesquelles il y a des aspects de notre vie qui ne sont pas positifs. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, d'une manière générale et d'une manière surtout intérieure, être quelqu'un qui va dans la bonne direction. Es-tu quelqu'un qui se plaint souvent? Ça, c'est une bonne façon de découvrir si nous sommes positifs ou négatifs. On n'aime pas, en général, la compagnie des gens qui se plaignent tout le temps. Je ne sais pas si vous aimez bien, mais des gens qui sont toujours à se plaindre, souvent, c'est des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, concentrées sur ce qui leur arrive constamment. Et donc, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de communication avec quelqu'un d'autre. Donc, es-tu en paix? Quand tu parles aux autres, est-ce que ça leur fait du bien? Et si la réponse est non, alors tu as besoin de t'édifier toi-même. On parle d'édification. Il y a une capacité, Dieu nous a donné une capacité de nous construire nous-mêmes. 1 Corinthiens 14, 4 nous dit, celui qui parle en langue, par exemple, qui prie dans l'esprit, s'édifie lui-même. C'est une réalité spirituelle, la Bible dit. On ne va pas passer outre en disant, oui, bon, c'est un petit détail, c'est une option. Non, c'est un des éléments d'édification. Et la prière dans l'esprit, si nous sommes esprit créés à l'image de Dieu qui est esprit, ce n'est pas pour le faire 5 minutes par semaine. C'est pour le faire d'une manière régulière. Et la version actuelle de la prière dans l'esprit, c'est quelqu'un qui prie dans l'esprit, se charge lui-même comme une batterie. Nous connaissons les batteries de voitures. Quand ça roule, un peu d'électricité est utilisée pour le démarrage, pour les feux. Mais en même temps, la batterie ne se vide pas. Au contraire, elle se recharge. Et ça, c'est une illustration technique de quelque chose qui se produit dans notre esprit. Il nous est dit, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, on parle de la part de Dieu, ça construit l'Église. Parler de la part de Dieu construit. À l'inverse, certains peuvent prêcher, enseigner, dire des choses, soi-disant prophétiser. Si ça n'édifie pas, ça ne vient pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Les gens rendent des choses très compliquées. Il n'y a que deux façons de faire, celle de Dieu ou celle du diable. Et nous pouvons, je peux vous donner mon avis, mon opinion, etc. Si elle n'est pas inspirée par Dieu, elle ne vous aidera pas. Et donc certains sont plus intéressés de dire, voilà, je vais vous dire ce que je crois. Alors c'est le jeu qui est très grand, c'est parce que ce qui m'importe, c'est de me mettre en avant, de vous montrer combien je suis érudit, que je connais toute la Bible, combien mes idées sont supérieures aux vôtres, et tout ça, ça n'édifie pas. Mais dès qu'on parle de la part de Dieu, c'est quelque chose qui nous enrichit, qui nous inspire. Plus loin, Paul dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Donc, nous avons tous ces moyens où nous pouvons nous édifier nous-mêmes. Avoir quelqu'un quand on a un moment difficile, c'est bien d'avoir un compagnon. Parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un parce que si on est en bas, ben, il peut nous relever. Nous avons toujours Dieu qui est avec nous, même dans une situation où nous sommes solitaires. Il y a un livre qui est sorti il y a des années de ça, c'était de cet évangéliste Nicky Cruz, et il avait sorti le livre « Solitaire mais jamais seul ». J'aime bien cette expression parce qu'il lui arrivait dans son cheminement d'être des fois solitaire, mais il a dit « jamais seul ». Il voyait toujours la présence de Dieu dans sa vie. Alors, est-ce que tu t'édifies toi-même ? Quelles sont tes paroles ? Rappelez-vous, Proverbe 18:21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bénissez et ne maudissez pas. Apportez des solutions au lieu de sans cesse parler des problèmes. Donnez toujours une note d'espoir, même si vous ne connaissez pas la réponse. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas toutes les réponses que vous ne pouvez pas dire aux autres « il y a une solution ». D'accord ? Ça peut déjà aider. Si vous dites aux autres « il n'y a rien à faire », alors c'est vraiment le coup près, c'est terminé. Mais vous pouvez dire « moi je ne sais pas, mais je sais que Jésus peut faire quelque chose ». La réponse existe toujours auprès de lui. Ce n'est pas une formule simple comme ça qu'on utilise parce qu'on ne sait plus quoi faire. C'est une réalité de dire la réponse existe auprès de lui. Donc parlez de lui, exaltez-le, louez-le, pas louez-le dans le sens « je lui chante des louanges », louez-le, c'est-à-dire parlez en vantant ses mérites aux autres. Ça va vous édifier, vous pouvez le faire seul ou le faire devant d'autres. Et ça va aussi être une façon de communiquer de l'espoir. Parlez des promesses de Dieu. Dites, bon, la situation du monde est catastrophique, on ne sait pas où on va, mais on y va. Mais il y a une possibilité. Il y a Jésus qui est l'espoir du monde. Parlez des promesses. Dites, il a promis. Donc, ne soyez pas, quand tu es une personne positive, vous n'êtes pas simplement consommateur, mais bâtisseur. Quand on parle de l'esprit du monde qui rentre dans l'Église, c'est aussi une réalité que des choses qui se passent dans le monde se manifestent dans l'Église corps de Christ. Où il y a une grande majorité de personnes, je cible personne en particulier, ni une Église en particulier, une grande majorité de personnes qui se conduisent dans l'Église comme ils font, par exemple, en supermarché. Je vais, j'achète des produits, je paye, et c'est comme ça que ça se passe. Je vais au spectacle, je paye mon entrée, et après, j'ai droit au spectacle. Mais l'Église, c'est autre chose que ça. Donc, ne soyez pas simplement consommateur, mais bâtisseur. Ceci dit, comme certains ont peut-être vu leur vie détruite par beaucoup de choses qui sont arrivées, et qui n'a pas eu des drames ou des problèmes ou toutes sortes de choses qui sont passées, il y a un temps pour venir aussi, pour être édifié par les autres, être nourri, encouragé. On ne peut pas dire au bébé tout de suite, il est temps d'être debout sur tes pieds autonome maintenant. Donc il y a un temps pour se reconstruire, il y a un temps pour recevoir, pour guérir de ses blessures, apprendre, et ensuite il y a un temps pour grandir et marcher. Dans ce sens aussi, 1 Corinthiens 10:23, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. À un moment donné où vous qui avez grandi en Christ, vous devez choisir. Dans le sens qu'on ne peut pas vous dire, mais ça, tu n'as pas le droit de le faire. Comme les gens disent, ma religion me l'interdit. Ici, l'apôtre Paul dit, tout est permis. Vous pouvez avoir une grande liberté en Christ. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et vous pouvez avoir une grande liberté en Christ, mais en même temps, le fait de vouloir construire va vous obliger à faire des choix, à dire, bon, c'est sûr que je ne peux pas désirer le réveil, que des gens se tournent en masse vers Christ, que l'Église grandisse, que l'Évangile soit propagé, et en même temps, je ne participe à rien de ce qui se fait pour le royaume de Dieu, et j'utilise tout mon temps libre que uniquement pour mes loisirs et mes distractions. Il y a un moment où ça ne va plus. Autant, quand nous sommes très occupés, que nous avons notre travail, nos engagements et nos responsabilités, l'être humain a besoin de repos, et repos, ça ne veut pas seulement dire dormir la nuit. Ça veut dire un temps de détente, un temps où on se renouvelle dans les choses qu'on fait. Et donc, on a le droit d'avoir des loisirs et des distractions. C'est même nécessaire. C'est nécessaire pour notre équilibre. Dernièrement, je me suis demandé pourquoi on fait ses rêves toutes les nuits. Notre cerveau est en train de retravailler toutes les tonnes d'informations qui viennent en nous, de faire de l'ordre dans toutes nos émotions, dans tout ce qui nous arrive. Et Dieu nous a construits comme ça. pour qu'on puisse un peu retravailler tout ça la nuit et mettre de l'ordre. De la même façon que vous avez vos engagements, vous avez toutes vos responsabilités, votre travail, et il y a un moment alors où on a besoin de se détendre, de renouveler les choses pour qu'on puisse de nouveau continuer. Donc, troisième, dernière partie, est la vision d'édifier le corps. Je dis, le corps de Christ, c'est comme un géant endormi. C'est la chose, entre guillemets, la plus puissante qui soit sur la terre actuellement. Il n'y a pas plus fort que ça. Le corps de Christ, avec Jésus qui est la tête, et cet ensemble immense de croyants où le Saint-Esprit est présent en chacun, c'est une puissance inimaginable. Et pourtant, c'est comme une espèce de géant endormi. Quand est-ce qu'il va enfin se dresser et se lever? Et la Bible nous le dit qu'il y a ce côté sans cesse paralysie, assoupissement. Il y a des puissances de ténèbres qui agissent contre ça. Ils ne veulent pas que ce corps soit en action. Et donc, nous sommes, 1 Corinthiens 3:9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voyez-le comme ça. Ce corps de Christ, c'est l'édifice de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de construire. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 1 Corinthiens 14:12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. Et je vais caricaturer. Je vais dire, nous avons notre culte du dimanche matin, on veut pas juste une petite prophétie par-ci, une petite prophétie par-là, et tout le monde dit, ah, c'est chouette, ça m'a fait du bien, une parole. C'est plus que ça. C'est de dire, nous tous, chacun, nous avons Saint-Esprit en nous. Si toutes ces manifestations de l'Esprit vont vers le corps, tous les jours de la semaine, tout le temps, ça crée un renouvellement et une édification en permanence du corps. En permanence. Vous pouvez prophétiser dans votre maison sur quelqu'un. C'est-à-dire, vous pensez à quelqu'un au lieu de simplement rester dans les choses naturelles, parler de bonnes choses sur lui. Dites, voilà, je ne sais pas où il est, où elle est, ce qu'elle fait en ce moment, mais voilà, je dis de la part du Seigneur, au nom de Jésus, pour sa journée, sa famille, sa santé, son travail. Faites-le. 1 Corinthiens 14, 17, il nous est dit, en priant dans l'esprit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, voyez maintenant cette direction de l'édification vers le corps. Il y a différents niveaux, on l'a déjà vu. Premier niveau, soi-même. 1 Pierre 2:5, vous-même, dites-le tout le monde, moi-même. Comme une pierre vivante, je m'édifie pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir une victime spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Jude 1:20, pour vous, encore une fois, pour moi-même, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Édifiez-vous sur la base de votre très sainte foi. C'est pas pour faire un langage religieux, mais très sainte foi, saint, c'est quelque chose qui est à part. La foi, c'est pas juste n'importe quoi. C'est pas juste, moi je crois en ceci, toi tu crois en cela, d'une croyance, tout le monde a ses croyances. Non, ici il est dit votre très sainte foi. Votre façon de mettre votre confiance en Dieu, c'est quelque chose qui est saint. C'est quelque chose qui est particulier. Et donc, on continue, on a vu. Soi-même, si tu n'es pas positif, comment vas-tu aider? Jésus lui-même, il a dit, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Il connaissait déjà ce proverbe autrefois, on peut le dire encore maintenant. Si le chrétien est malade, malade dans sa tête ou malade en lui-même, je ne parle pas de maladie physique maintenant, comment va-t-il aider? Il y a des pasteurs malades, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur église? Si à l'intérieur ça ne va pas du tout, s'il n'y a que trouble, confusion ou péché, de temps en temps le péché se révèle après. Et puis, on se rend compte que pendant des années, pourquoi il y a des choses qui ne marchaient pas? Parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas réglées. À un moment, il y avait ce courant du vin nouveau. Moi, je crois que le vin nouveau, Jésus l'a annoncé, hein, il a dit, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau, c'est chaque fois que l'Esprit de Dieu agit pour revivifier le corps de Christ et l'Église. C'est pas juste un moment historique où il dit, voilà, maintenant il y a eu le vin nouveau à tel endroit, dans telle période de l'histoire. Le vin nouveau, c'est en permanence les nouvelles choses de l'Esprit de Dieu. Et alors des gens qui voulaient, ils voulaient partager le vin nouveau aux autres, et quelqu'un a dit une fois cette phrase, il a dit, on voulait apporter le vin nouveau, mais on n'a apporté que le vinaigre. Parce que avec ce désir de vouloir aider les autres, mais à l'intérieur, c'était pas réglé. On savait que le vin nouveau, ça pourrait faire du bien, mais on ne l'avait pas. On n'avait que le vinaigre en nous. Alors, ça ne peut pas marcher. Donc, soi-même. Ensuite, de soi-même, on passe à un individu. Peut-être dans vos relations, les uns avec les autres. Je pense un à un, relation. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 1 Thessaloniciens 5:11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Quand on lit tous ces passages de la Bible l'un après l'autre comme ça, on dit, mais il n'y a que ça finalement. C'est ça qui compte, se construire, s'aider, se soutenir. Et finalement, ça fait du bien. Si vous arrivez quelque part, vous dites, je suis au milieu de mon club de supporters, comme certains qui sont dans le monde du sport ou des fois des artistes, chansons ou autres. Ils vont dans une salle, la salle est gagnée d'avance. Il n'y a que les fans qui sont là, ceux qui aiment leur musique. Alors, c'est facile, il n'y a pas à convaincre. C'est pas comme les hommes politiques qui veulent se faire élire, qui ont besoin de convaincre l'auditoire. Mais là, on est aussi dans l'Église, on ne devrait pas être dans la politique. On devrait pouvoir se dire, on est tous ensemble, dans la même équipe, en poursuivant le même but. Alors, le corps local. Là, on développe un peu plus, on est un peu plus large. 1 Corinthiens 14, toujours, qui nous parle du corps local, parce que ça parle beaucoup du culte. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est ces façons dont on a, quand on est ensemble, de s'encourager. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères ou sœurs, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. On élargit encore plus, on arrive au corps de Christ. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous n'avez pas été établi comme une nouvelle dénomination. Vous n'avez pas été établi parce que les hommes ont décidé. Vous avez été établi sur le fondement des apôtres et des prophètes, édifié. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait plusieurs passages dans Éphésiens, puisque c'est vraiment une des épîtres essentielles pour comprendre le corps de Christ et l'Église. 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 4, 12, les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Du corps, la vision du corps. Il n'est pas dit, il est nécessaire que dans votre église locale, vous ayez tous les ministères qui soient présents pour l'édification de votre église locale. Il dit, les ministères sont donnés plus largement pour qu'on ait cette vision de ce géant dont je parlais. Éphésiens 4, 16, c'est de lui, Jésus. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, tout le monde dit tout le corps, tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, avez-vous cet appel pour être un conseiller? On est tous conseillers à un certain niveau. Faire un travail pastoral? Voulez-vous faire partie de ces 7 pasteurs qu'on va élever contre l'Assyrien, contre l'ennemi? Vous rappelez, on dirait pourquoi 7 pasteurs, hein, un seul suffit. Hein. Ceux qui ont cette vision étroite du ministère, il faut un pasteur et surtout pas un deuxième, parce que sinon je me sens menacé dans mon autorité et que sais-je encore. Mais rappelez-vous de Moïse, quand les gens ont commencé à prophétiser, Jésus a dit, il faut les arrêter là, qu'est-ce qu'ils font? Et il a dit, non, non. Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes, que tous parlent de la part de Dieu. Et moi je dirais, et en même temps que tout le peuple de Dieu soit composé de pasteurs, qu'il y en ait plein, qui sache conseiller, aider, soutenir. On n'est pas de trop loin de là. Vois où Dieu te place et de toute façon, construis. Construire, construire, construire. En conclusion, il y a encore quelques versets de la parole de Dieu pour terminer, pour se faire du bien. 1 Corinthiens 3:9, on l'a déjà cité, nous sommes ouvriers avec Dieu. On le dit ensemble ? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Donc, je ne le lis pas, mais rappelez-vous le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ils travaillent pour rien. Donc, c'est essentiel que ce soit lui qui construise avec nous ou qu'on construise sous sa direction. Acte 20, 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. De nouveau, les deux choses ensemble. Paix et édification mutuelle. Romains 15, 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. 1 Corinthiens 8:1, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. 2 Corinthiens 12:19, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous, c'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Et le verset final qui nous donne une vision d'avenir jusque dans l'éternité. 2 Corinthiens 5:1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.